Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Vous le savez, dans 3 jours a lieu l'élection présidentielle américaine, Biden contre Trump, les démocrates contre les républicains. Depuis 4 ans, le président Trump a fait de la politique vis-à-vis de la Chine l'un de ses principaux chevaux de bataille. Tenir la dragée haute aux Chinois, à l'économie chinoise, aura été un des axes de son mandat. Mais malgré cette politique américaine, malgré la pandémie de Covid-19, il semble que la Chine ait gagné la bataille et que son économie se sorte plutôt bien de cette lutte de titans. Cette impression est-elle conforme à la réalité? Quels sont les atouts de l'économie chinoise aujourd'hui, ses faiblesses? Quels objectifs pour le plan quinquennal arrêté cette semaine par le plénum du comité central du Parti communiste chinois? La Chine, enfin, est-elle toujours la locomotive de l'économie mondiale? Et voilà les quelques questions que nous poserons aux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Françoise Wang.
Bonjour.
Françoise Wang, vous êtes économiste senior chez le réassureur Euler Hermès, où vous couvrez la zone Asie-Pacifique avec bien sûr une attention particulière à l'économie chinoise, à laquelle vous consacrez de nombreuses études. Avec vous dans cette émission et également à distance pour raisons sanitaires, Dominique Joly, bonjour.
Bonjour Monsieur Boris.
Dominique Joly, vous êtes professeur de stratégie d'entreprise à la Webster Université de Genève, où vous dirigez la Walker School of Business and Technology, l'université Webster dont le campus principal se trouve aux États-Unis à Saint-Louis, dans l'état du Missouri. Au cours de cette émission, bien sûr, des extraits sonores et de reportages, nous retrouverons en particulier Stéphane Lagarde à Pékin et Théa Olivier à Dakar. Commençons cette émission tout de suite par un extrait du dernier débat de la campagne présidentielle américaine. Le 23 octobre dernier, interrogé sur la manière dont il répondrait au manque de transparence chinois dans la gestion de la pandémie de coronavirus, c'était la question de la journaliste animatrice, voilà quelles étaient les réponses de Joe Biden, puis de Donald Trump.
Quand je serai président, j'obligerai la Chine à respecter les règles, pas comme il le fait. Il fait augmenter le déficit avec la Chine, il ne l'a pas réduit. Nous refuserions de céder 51% du capital de nos entreprises à un partenaire chinois. Nous ne ferions pas ça du tout pour commencer. Ensuite, nous sommes dans une situation dans laquelle la Chine serait contrainte de respecter les règles internationales. Quand j'ai rencontré Xi Jinping, j'étais encore vice-président, et il a dit qu'ils allaient établir des zones d'exclusion aérienne dans la mer de Chine du Sud. J'ai dit, peu importe, et on y a envoyé des bombardiers B1. Ils doivent respecter les règles. Mais ce qu'il fait, Trump, c'est qu'il s'allie à tous les voyous, comme le Nord-Coréen, le Chinois ou Poutine. Nous pesons 25% de l'économie mondiale, nous avons besoin d'avoir nos amis avec nous pour dire aux Chinois, voilà les règles, vous les respectez, et sinon, ça va vous coûter cher.
Président Trump, qu'allez-vous faire précisément pour faire payer la Chine? Vous avez dit que la Chine paierait.
Mais la Chine paye. Les Chinois payent des milliards et des milliards de dollars. Je viens de donner 28 milliards de dollars à nos fermiers. Ce sont les Chinois qui ont payé ça. Et vous savez comment ils l'ont fait? Ils ont dévalué leur monnaie. Vous, Joe, vous n'avez jamais taxé les Chinois. Je leur ai imposé des taxes de 25% sur l'acier qu'ils bradaient. Ils étaient en train de tuer notre industrie sidérurgique. Nous n'en aurions plus. Et maintenant, nous avons toujours notre sidérurgie.
Un extrait du débat Trump-Biden du 23 octobre dernier. Joe Biden affirme que le déficit américain vis-à-vis de la Chine s'est accru sous le mandat de Donald Trump. C'est exact, Françoise Wang ?
Oui, alors effectivement, il a raison. Cela dit, il est important de voir que, par contre, les parts de marché de la Chine aux États-Unis elles, ont baissé. Donc, ça s'est effectué au profit de pays, par exemple, comme le Vietnam. Mais alors que la Chine, en fait, a gagné des parts de marché auprès de ses autres partenaires commerciaux cette année, ça a été le contraire aux États-Unis. Et donc, la politique commerciale de l'administration Trump et les hausses de droits de douane qui ont été mises en place depuis 2018 ont quand même eu un effet sur l'activité commerciale entre les deux pays.
Dominique Joly, vous confirmez ?
Oui, je confirme tout à fait, mais peut-être si je dois rajouter une chose, c'est juste rappeler que cet état de déficit commercial entre Chine et États-Unis, c'est quand même au moins l'affaire de 30 ans. Hein. Donc ça fait très longtemps, donc on va pas retourner la situation, et ça va prendre du temps pour retourner cette situation. Donc peut-être on va en ce moment dans le bon sens, mais encore une fois, il faudra du temps.
Est-ce que les États-Unis, par leur politique, ont nui à la puissance économique de la Chine, Dominique Joly ?
Oui, bien sûr. La réaction en Chine a été une réaction d'inquiétude parce que les choses ont été crescendo. Et puis c'est vrai que c'est la première fois depuis 40 ans qu'il y a une relation qui passe beaucoup moins. Donc oui, les Chinois sont pas enthousiastes.
Ils sont pas enthousiastes, mais est-ce que leur économie a souffert de cette politique américaine ?
Oui, il y a eu des pertes d'emplois, en tout cas Trump s'en est fait l'écho. Ça me semble assez logique, oui, qu'il puisse en avoir eu, bien sûr.
Françoise Huang, même question ?
Oui, il y a quand même eu des répercussions, puisque par exemple les exportations nettes ont contribué quand même négativement à la croissance de l'économie chinoise en 2018.
Ça veut dire quoi ça, que les exportations nettes ont contribué négativement ?
C'est-à-dire que les exportations n'ont pas assez cru, alors que les importations, par exemple, se sont plutôt maintenues. Donc on a eu un ralentissement des exportations en 2018, notamment provoqué par cette situation plus tendue avec les États-Unis.
Au mois de janvier dernier, la Chine s'était engagée à importer pour 140 milliards de dollars de produits agricoles et industriels. Enfin, 140 milliards, certes, les chiffres sont un peu flou, certains disent 200 milliards, mais en tout cas de très gros volumes de produits agricoles, de produits industriels. Est-ce que la Chine a tenu parole là-dessus ?
Alors je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte dans ce plan qui était très ambitieux. Effectivement, on a eu cette signature le 15 janvier de cette année, mais le plan était très ambitieux même alors qu'on était à l'époque avant un contexte de Covid, donc avant un contexte de demande qui allait baisser du fait de la crise économique. Donc déjà à l'époque, dans l'équipe, on avait assez des doutes sur à quel point ce plan pouvait être maintenu. En plus, on est dans une phase de baisse des prix des matières premières, donc notamment des prix agricoles, ce qui implique un volume d'autant plus important à importer de la part de la Chine. Donc c'était assez optimiste et ambitieux en fait de pouvoir respecter un tel programme. Aujourd'hui, sur beaucoup de secteurs, en fait, les importations n'ont pas pu être respectées. Et bien sûr, il faut avoir en tête qu'on est quand même dans un contexte de crise économique due à la pandémie mondiale. Néanmoins, sur certains produits agricoles, la Chine quand même a réussi à accélérer significativement ses importations, notamment par exemple sur le soja. Et la semaine dernière, même des officiels de l'administration Trump avaient parlé de leur satisfaction sur certaines parties de cet accord.
Ce qui a freiné la puissance chinoise, évidemment, Françoise Huang, vous en parliez à l'instant, c'est la pandémie de Covid-19. Quelle est l'importance des dégâts économiques de cette pandémie en Chine, Dominique Joly ?
Écoutez, moi je ferai référence à une étude de l'OCDE qui suggère une chose, c'est que la Chine va probablement avoir une croissance positive cette année, alors que les 20 autres pays développés qui ont été considérés dans cette étude, eux, vont accuser une décroissance. Hein. En France, il serait même question d'une décroissance de 12%. Donc finalement, bien sûr que la Chine a eu à souffrir, mais pas tant que ça, puisque on pense que cette année, on va avoir 1, voire même 2% de croissance sur le territoire chinois.
Françoise Huang, l'impact de cette pandémie de Covid sur l'économie chinoise, quel est-il ?
Oui, du coup, Monsieur Joly a tout à fait raison. Dans l'équipe aussi, nos propres prévisions montrent bien que la Chine va être le seul pays, la seule économie à avoir une croissance positive parmi les pays du G20 cette année. Et on a effectivement cette prévision de croissance positive en fait depuis le début de la crise. On s'attendait pas à vraiment une contraction, une récession totale sur l'année de la Chine. Il faut savoir en fait que le redémarrage de l'économie chinoise après la crise de la Covid-19 s'est effectué de manière plus rapide que dans les autres pays. Donc évidemment, la Chine a été la première touchée par la pandémie et elle en est la première à avoir été à peu près sortie, au moins d'un point de vue économique. En avril déjà, on estimait que à peu près 3/4 de l'économie était déjà revenu au niveau d'avant-crise, en particulier du côté productif. Et au deuxième trimestre de cette année, déjà, le PIB chinois était revenu au niveau de la fin d'année 2019. Donc comparativement parlant, oui, la Chine est quand même revenue plus rapidement que d'autres pays dans le monde, mais en termes de croissance, on est quand même, il est vrai, significativement plus bas que ce qu'on attendait avant cette crise, puisque donc on s'attend à une croissance de 2% pour l'économie chinoise cette année, alors qu'avant la crise, on était à presque 6%.
Alors on va continuer ce débat sur la croissance chinoise, mais d'abord faisons non pas un grand bond en avant, mais un petit bond en arrière. Au mois de juillet dernier, RFI diffusait sur ses antennes le reportage d'un de ses correspondants à Pékin, Liu Zifan, qui témoignait de la fragilité à l'époque de la reprise économique. On écoute ce reportage.
Logé dans un immeuble flambant neuf du nord de la capitale chinoise, Cloud Minds, entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, accueille les visiteurs avec ses propres robots.
Ravi de vous rencontrer.
Pendant la crise sanitaire, la start-up, créée en 2015, a délivré de nombreuses machines tirées tout droit des films de science-fiction à des hôpitaux de Wuhan pour aider les personnels soignants dans le berceau de l'épidémie. Mais le contexte de ce début d'année reste compliqué, explique Coty, vice-président de Cloud Minds.
Jusqu'ici, l'année 2020 est la plus compliquée. On espère que 2021 ira mieux, mais on ne peut qu'espérer à ce stade. On doit déjà faire face à un ralentissement économique mondial, à la guerre commerciale, et maintenant il faut ajouter le risque épidémique. Donc forcément, 2020 est particulièrement difficile.
Si Pékin a été épargné par l'épidémie, les chaînes d'approvisionnement ont été chamboulées, les opérations à l'intérieur du pays ont été totalement paralysées et la start-up a vu son activité baisser de 50% par rapport à l'an dernier.
On a rencontré quelques problèmes lors de nos déplacements dans le pays, mais maintenant que la situation s'améliore et que Pékin n'a recensé aucun cas ces 14 derniers jours, c'est plus facile de se déplacer. On a quand même dû repousser la sortie de nos nouveaux produits au second semestre, car pendant longtemps, à cause des mesures de restriction, on ne pouvait accueillir que 30 ou 50% de nos effectifs dans nos locaux.
Surtout avec une économie à l'arrêt total pendant plusieurs semaines, la consommation ne repart toujours pas, comme nous confirme ce serveur dans un restaurant d'une galerie commerciale de Pékin.
La reprise n'est pas terrible, c'est mieux que cet hiver, mais il y a toujours moins de monde que l'an dernier à la même période. Évidemment que le chiffre d'affaires plonge, mais c'est partout pareil, on n'a pas le choix.
Même son de cloche dans ce restaurant japonais de sushi, pénalisé par la mauvaise réputation du saumon, accusé d'être à l'origine de la deuxième vague qui a brièvement frappé la capitale chinoise.
On ne peut plus vendre de saumon. Enfin, on peut en vendre, mais ça ne sert à rien. Les clients n'en veulent pas. On est revenu à 70% de notre activité. En semaine, il n'y a pratiquement aucun client. Les week-ends, à la rigueur, ça va mieux.
C'était donc un reportage, je vous le rappelle, diffusé au mois de juillet dernier. Une archive que nous devons à la Sonothèque de RFI, Françoise Delignon. Dominique Joly, on voit là quand même que l'économie chinoise a souffert, qu'elle souffre de cette pandémie de Covid. C'est ce qui explique probablement qu'elle en soit à 2% de croissance officiellement au lieu des 6 qui étaient prévus, comme le rappelait Françoise Huang. Est-ce que le tissu industriel, le tissu économique profond de la Chine a été affecté?
Alors, si vous me permettez, je voudrais juste rapporter une petite anecdote parce que je pense que l'explication, elle est pas mal dans le comportement, dans les attitudes. Au mois de mai, j'ai interviewé à distance un certain nombre de mes contacts, notamment sur Shanghai. Et j'ai été frappé que, en fait, ce qu'ils cherchaient à faire, d'abord, c'était comment faire, effectivement, puisqu'on a eu deux, trois mois difficiles, comment faire pour rattraper ça. Et l'idée l'idée, c'était, ben, on va bosser plus pendant cet été. Et c'est une chose qui m'a beaucoup interpellé parce que, en France, au mois de mai, la vraie question qui était posée, c'est est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances en dehors de la France? Donc, vous voyez, j'ai le sentiment que, oui, je vais pas nier qu'il y a eu un impact, hein, c'est assez clair, mais cet impact, parce que les Chinois sont peut-être plus résilients que nous, cet impact a mieux été encaissé, et encore une fois, la différence entre 2 et 6, c'est pas la différence entre 1 et moins 12.
Moins 11, disait le ministre des Finances et de l'Économie, Bruno Le Maire, sur les antennes d'une radio publique française, de France Inter, pour ce qui est de l'économie française. François Zhuang, donc la croissance économique de la Chine, 2%, c'est évidemment beaucoup mieux que ce qu'on attend pour les pays européens, mais si on tient compte de la démographie, des naissances, est-ce que la Chine est toujours dans le vert? Est-ce que ce 2% suffit à nourrir l'appétit de consommation, d'emploi des Chinois?
Oui, alors j'aimerais juste préciser que oui, il est vrai qu'on va quand même avoir au total une croissance de l'économie chinoise cette année, mais il est important de souligner quand même qu'on a une reprise économique et qui est assez en fait disparate à travers les secteurs et à travers les agents économiques. Donc je disais tout à l'heure que du côté productif, l'économie en fait est revenue à l'activité relativement rapidement après la crise de la Covid-19. Mais du côté consommateur, ça a mis plus de temps puisque c'est assez intuitif. Donc les consommateurs sont restés plus prudents avant de retourner au restaurant, avant de revenir à des divertissements à l'extérieur. Donc ce côté-là, ça a mis un peu plus de temps à reprendre et c'est reflété effectivement dans les propos qu'on a pu entendre dans le reportage. D'un point de vue chômage, je m'attends quand même à une augmentation du chômage, comme vous le soulignez très bien. Bon, maintenant les chiffres sont un petit peu compliqués à suivre en Chine, car une partie de la population n'est pas bien enregistrée dans l'emploi. Mais sur la base des chiffres officiels, on devrait avoir un chômage qui est au plus haut niveau depuis quelques décennies.
Donc pour le Parti communiste chinois, c'est quand même une grosse difficulté, ça.
Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, pendant de très nombreuses années, ces dernières décennies de développement économique en Chine, la croissance du PIB était vraiment l'objectif primordial pour les autorités chinoises, l'objectif qui était communiqué à tous les niveaux d'administration publique, l'objectif à atteindre. Mais ces dernières années, pour moi, il y a un peu un rééquilibrage des priorités dans les mesures politiques chinoises. D'une part, en fait, on va apporter plus d'attention sur justement l'emploi. Il y a cette idée que qui a vraiment été beaucoup plus mise à jour, qui est que oui, on cherche de la croissance économique, mais de manière ultime, en fait, c'est dans un but de soutenir l'emploi, puisque le raisonnement est que tant que l'emploi est maintenu, que tant qu'on a une croissance des revenus des ménages, on peut aboutir à une certaine paix sociale et donc à un pays assez stable. Il y a aussi d'autres priorités qui sont en tête des décideurs politiques, notamment l'environnement, l'endettement, la discipline budgétaire, etc. Mais oui, l'emploi reste très primordial.
Quels sont les moyens, Dominique Joly, que l'État chinois a utilisé pour soutenir cette activité économique pendant la pandémie? On voit qu'en Europe, aux États-Unis, les banques centrales sont très sollicitées, que les États centraux injectent des milliards de dollars ou d'euros dans l'économie. Est-ce qu'en Chine, ça a été la même chose?
Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de mesures qui sont assez comparables à celles qu'on a adoptées ici, hein, où on va aider, on va réduire un niveau de taxe, où on va permettre d'échelonner un remboursement. Donc, je pense pas qu'il y ait eu de différence très significative pour la prise en compte de l'impact économique au niveau notamment des petites entreprises.
François Zhuang, est-ce qu'il y a eu des injections massives de fonds publics?
Oui, il y a eu une réaction assez rapide de la part des autorités, donc tant de la Banque centrale que que du côté budgétaire. Dans l'équipe, on estime par exemple que en termes de dépenses budgétaires et de réduction de taxes, comme M. Joly l'évoque, on a au total un soutien budgétaire qui a atteint environ 7% du PIB cette année. Ça compare par exemple à entre 2,5 et 3,5 seulement entre 2018 et 2019. Donc on a eu effectivement un soutien budgétaire qui a été plus important et qui s'est entre autres traduit en des projets d'infrastructure, donc de l'investissement public qui a été augmenté, et du côté monétaire, des taux d'intérêt, des taux de financement plus faibles pour les entreprises.
C'était Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de l'économie chinoise avec deux invités, François Zhuang, économiste senior chez Euler Hermès, et Dominique Joly, professeur de stratégie d'entreprise à la Webster Université de Genève. On sait que la Chine va moins bien que ce qu'elle allait, mais pour imaginer ce que pourrait être l'économie post-Covid, le monde d'après, direction Yiwu, où la pneumonie virale est pour l'instant maîtrisée comme dans l'essentiel du territoire chinois. Yiwu, c'est sur la côte sud-est du pays et c'est là que se trouve le plus grand marché de gros de produits accessoires, dirais-je, de la planète. C'est là qu'on peut trouver Mario Chevalier, ce Français qui vit sur place, vend les produits de l'Atelier du Monde par conteneurs entiers en Afrique et en Europe. Écoutez ce reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Stéphane Lagarde à Yiwu.
Comme vous pouvez voir, les trois quarts des shops sont fermés. C'est la rue principale Yiwu qui bouge le plus normalement. Voilà, vous voyez, fermé. Tout ça, c'est fermé, vous voyez. Et les loyers sont très chers, donc maintenant, ils peuvent plus payer les loyers, donc tout est fermé.
Des shops, des magasins fermés au centre-ville, restrictions aériennes, suspension des visas, le grand marché d'Yiwu au sud-est de la Chine ne s'est pas encore totalement remis de la pneumonie virale. La Chine est aujourd'hui une bulle sanitaire. Les marchands étrangers ne sont pas revenus, explique Mario Chevalier, seul Français installé à Yiwu depuis 14 ans.
C'est une ville qui marche beaucoup avec les étrangers. Donc comme il n'y a pas d'étrangers, les étrangers sont interdits de venir en Chine actuellement, et bah, beaucoup de shops qui vivent avec les étrangers, ils ferment. La Chine, c'est le départ de la chaîne. Hein. Si jamais il y a un maillon de la chaîne qui pète, et bah, c'est toute la chaîne qui pète entière. Hein. Donc en France, l'économie va mal, et bah, la Chine en ressent forcément les conséquences. Et voilà, nous y voilà. Welcome to Maïda. Normalement, là, c'est le quartier musulman. Là, c'est vraiment impressionnant. Tu vas voir, là, mais c'est tout petit. En ce moment, c'est la vie au ralenti. Bah,
la vie au ralenti, même si très vite, les usines de l'Atelier du Monde se sont reconverties.
Ils sont très réactifs, les Chinois. Ça marche plus, bing, ils retombent sur autre chose. Ils se rebalancent sur autre chose qui marche. Le produit du moment, c'était un peu tout ce qui était médical. Et bah, les Chinois, ils s'en rebalançaient tous pas mal dans le médical.
Maintenant, ils ont mis à faire des masques, c'est ça?
Bah, beaucoup se sont mis à faire des masques, des visières. Depuis le début de l'épidémie, c'est quand même eux qu'on fournit quand même pas mal du monde entier. En combinaison, en masque, en tout ce que les gens n'avaient pas, en gants. Les Français sont incapables de monter une usine en 15 jours, 3 semaines. Les Chinois, ils arrivent à le faire. Hein. Moi, j'ai vu des fournisseurs à moi qui vendaient des bonnets, des écharpes, même des motos. Ils se sont mis à faire des masques. Les matières premières ont monté, tellement monté, ça a monté jusqu'à 7 fois le prix. La tonne, en temps normal, c'est 700 euros du kilo. C'est monté jusqu'à 8000 du kilo, la tonne pour les masques. Et tous ces shops-là qui font des sacs, des machins comme ça, ils sont tous mis à faire des masques. C'est marrant à voir.
Devenus beaucoup trop nombreux, une partie des fabricants de masques sont aujourd'hui passés à autre chose. Au tabouret télescopique, par exemple. On vend toujours de tout. À Yiwu, nous dit encore ce Vendéen, qui a commencé sur les marchés en France et qui aujourd'hui a des clients jusqu'au Maghreb et en Afrique.
En Côte d'Ivoire, en Algérie, même en France, mes clients sont obligés de repasser des commandes. La Terre va pas s'arrêter de tourner quand même. L'été prochain, plus personne va parler de ce virus. Les habits d'été, les shorts, les tongs, les accessoires téléphoniques...
C'est toujours l'Atelier du Monde, la Chine, parce qu'on parle beaucoup du Vietnam.
Moi, je pense qu'il n'y a aucun pays à l'heure actuelle qui peut fournir comme la Chine. Ils sont opérationnels de tous les côtés. Ils peuvent, que ce soit en logistique, en rapidité, en prix, en tout, ils sont imbattables. Je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde qui peut les battre. Même après, comme vous dites, Bangladesh ou des pays comme ça, la main d'œuvre est moins chère, mais ils ne font pas tout. Ils viennent chercher leurs braguettes ici, ils viennent chercher les boutons ici. Le Chinois est l'usine du monde, ça c'est sûr.
Dans le monde d'après, la Chine reste l'usine du monde tout en continuant de développer son marché intérieur pour parvenir à une société de moyenne aisance. C'est la stratégie dite de double circulation formulée par le président chinois lors d'un voyage récent dans le sud du pays.
Un reportage signé Stéphane Lagarde à Yiwu. Qu'est-ce que le professeur de stratégie d'entreprise Dominique Joly dit de cette capacité, de cette aptitude des Chinois à se reconvertir aussi rapidement?
Alors là, je confirme totalement, c'est exactement en ligne avec mon commentaire d'il y a quelques minutes sur le caractère résilient des Chinois. Hein. Je crois que n'importe qui a passé un peu de temps en Chine a vu, voit des gens réagir très rapidement et redémarrer un commerce dans des champs effectivement qui peuvent être totalement différents. Donc, mais il faut bien se rappeler que tous ces gens gens ont vécu depuis 40 ans quelque chose de très très différent de ce que nous avons vécu. Donc alors, je
parle... C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on a une économie qui, en 2003, était au niveau de l'Italie, et aujourd'hui, c'est une économie qui challenge les États-Unis. Donc, il y a nécessairement des conditions de vie qui sont très, très et significativement améliorées. Moi, ça fait 22 ans que je vais régulièrement en Chine, et je suis étourdi à chaque fois de voir les améliorations que les populations peuvent bénéficier. Donc, moi, je suis d'accord avec ce monsieur. J'aurais tout de même... modérer son enthousiasme dans le sens où je pense pas que le futur de la Chine soit à Yiwu. Alors pourquoi? Parce que on aura sans doute l'occasion d'en reparler, déjà parce que c'est dans le plan, mais aussi parce que ça fait très longtemps. L'idée, c'est quand même de donner une autonomie technologique au pays. Donc c'est plutôt probablement autour de la création de technologie, autour de toutes les start-up, à l'image de celle que vous aviez tout à l'heure dans le reportage, que le futur de la Chine va se faire, plutôt qu'avec des tabourets rétractables ou des tongs de plage ou des masques. Mais encore une fois, les masques, c'est un bel exemple. Il y a eu des milliers d'entreprises qui ont été créées pour spontanément faire du masque. Donc je pense qu'il y a du fait de l'histoire récente où il y a eu beaucoup de place pour l'entrepreneuriat, il y a une réactivité extrêmement forte, une spontanéité, une envie d'aller de l'avant, et ces gens sont prêts à sacrifier leur été, effectivement. Peut-être que nous, on l'est un peu moins.
François Zhuang, est-ce que la Chine est toujours l'atelier du monde? C'est ce que disait Mario Chevalier, ce Français de Yiwu que rencontrait Stéphane Lagarde pour nous.
Alors, je pense que la perspective atelier du monde, dans l'idée que la Chine reste un exportateur très important à l'échelle mondiale, oui. Et donc cette année, ce dont on parlait vers le début de l'émission, c'est que la Chine a gagné des parts de marché cette année, alors qu'on est quand même dans une année de crise. Et elle a gagné ses parts de marché, notamment, il est vrai, dans des équipements médicaux, comme les masques, comme les combinaisons qui étaient évoquées dans l'émission. Mais elle a aussi gagné des parts de marché sur, par exemple, les produits électroniques. C'est aussi un petit peu lié à la pandémie, puisqu'on a eu une augmentation de besoins de produits électroniques dans un contexte de enseignement à distance, travail à distance, etc. Mais la Chine aussi a gagné des parts de marché dans d'autres types de secteurs, donc pas uniquement des produits qui sont directement ou indirectement liés à la pandémie. Donc oui, d'un côté atelier du monde dans le sens grand exportateur à l'échelle mondiale, néanmoins atelier du monde d'un point de vue accessoire ou les produits qui étaient évoqués dans le reportage, je pense que ça c'est plutôt un modèle dont la Chine et les autorités veulent se détacher. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas avoir une autre économie, un Vietnam ou un Bangladesh qui est la taille pour vraiment entrer en compétition avec la Chine, mais il y a quand même une compétitivité en termes de prix. D'une part parce que ces pays sont à un stade de développement moins avancé que la Chine, mais d'autre part aussi parce que les décideurs chinois veulent quand même à long terme développer le marché domestique, la consommation privée, et donc forcément ça implique des revenus des ménages qui devraient augmenter, et donc à la fin une compétitivité moindre en termes d'exportation, donc en termes de compétitivité extérieure.
Mais François Zhuang, quand on a une croissance annoncée à 2%, une population d'1,5 milliard d'habitants, ou d'1,4 milliard, est-ce qu'on peut répondre à la demande du marché intérieur? Est-ce que ça suffit?
Alors justement, on a cette stratégie de double circulation effectivement qui a été mentionnée dans le reportage et qui était discutée pendant la session plénière qui vient de se clôturer à Pékin.
La session plénière du comité central du Parti communiste chinois.
Du Parti communiste, exactement. Oui. Et donc la circulation double sera au cœur en tout cas de la stratégie moyen à long terme de développement du modèle économique chinois. Et il y a précisément cet objectif. En fait, on parle de circulation double car il y a la circulation domestique et la circulation internationale. Avec la circulation domestique qui devrait être au cœur, qui devrait prendre une place primordiale de ce nouveau modèle économique que les dirigeants chinois souhaitent établir. Et circulation domestique, en fait, ça veut dire plus de développement de la demande domestique, un accroissement encore de la demande domestique, un rééquilibrage de la croissance et de l'économie chinoise vers la demande domestique. C'est un rééquilibrage, en fait, qui a été une stratégie qui a été annoncée dès la fin des années 2000 suite à la crise financière mondiale, où les autorités chinoises se sont rendues compte qu'il fallait moins dépendre des exportations, moins dépendre en fait de facteurs dont la Chine n'a pas le contrôle. Mais ce qui est différent cette fois-ci, c'est que cet accroissement de la demande domestique, à mon sens, les décideurs politiques chinois souhaiteraient y répondre plus par une augmentation de la production domestique plutôt que des importations. Et du coup, demander aux entreprises chinoises de produire plus, produire mieux, surtout produire mieux, ça implique des avancées technologiques, des objectifs d'avancées technologiques, pour pouvoir répondre à un développement de la demande domestique.
Produire mieux, Dominique Joly, c'est possible ?
Oui, oui, bien sûr, et c'est dans le cadre du plan Made in China 2025 qu'un effort doit prendre corps pour que, effectivement, l'industrie, alors encore une fois, quand on la visite, quand on la voit sur le terrain, on peut parfois douter de l'efficience, et d'ailleurs les études de productivité tendent à montrer qu'il y a une marge de progrès, et je pense que le gouvernement en est pleinement conscient.
Mais attendez, Dominique Joly, qu'est-ce que vous voulez nous dire quand il y a une marge d'efficience, quand on se rend sur le terrain, on voit que c'est mal organisé, il y a des problèmes ?
Oui, voilà, c'est ça, oui, le temps nécessaire pour faire une unité de production, il peut être réduit, voilà, c'est ça. Donc,
alors qu'on entendait tout à l'heure Mario Chevalier, dans le reportage de Stéphane Lagarde, nous dire qu'en 15 jours, il faisait une usine.
Alors on peut faire une usine, effectivement, mais nous aussi on peut la faire en 15 jours. C'est juste qu'on va faire moins de tests, donc on ne va pas hésiter à lancer l'usine, même si on sait qu'on prend le risque qu'il y ait une mauvaise production.
Le rond est chinois, en l'occurrence.
Oui. C'est une différence fondamentale entre la Suisse ou l'Allemagne et les Chinois. Nous, en Suisse, on va pousser beaucoup plus loin les tests. Hein. Donc ça, c'est une différence importante. Donc c'est pour ça qu'on met plus de temps, mais bon, quand la chose est en place, elle est là et on est tranquille pour plusieurs années. Alors, le plan 2025, c'est pour ça, hein, c'est pour investir un peu plus dans des outils plus performants, pour rajeunir l'équipement, pour qu'effectivement cette production soit plus efficiente, plus productive. Hein. Ça, c'est clair. Par ailleurs, je confirme tout à fait le point fait par Madame Huang sur la consommation intérieure, ça c'est assez clair. La seule chose que je voudrais éventuellement ajouter, c'est que je pense que ça ressemble beaucoup à une reformulation. Parce qu'en fait, cette question, comme l'a dit Mme Huang, c'est au moins depuis les années 2000, c'est très apparent. On voit très clairement que les Chinois, je ne veux pas vous inonder de chiffres, mais bon, grossièrement, la consommation intérieure, c'est 35% du PIB. En France, ça va être 58, mais en Inde aussi c'est 58. Voilà, donc là il y a un déséquilibre. Pourquoi ? Bah parce que dans les trois piliers fondamentaux investissement, exportation, consommation intérieure, bah le dernier a toujours été un petit peu négligé. Donc ça c'est super clair. Il y a un vrai manque de ce côté-là en Chine, et dans ce sens-là, le plan à venir va permettre de, enfin c'est un des deux axes du plan, renforcer la consommation intérieure avec donc cette reformulation du vocabulaire, et puis comme je le disais tout à l'heure, l'autonomie technologique. Donc ces deux choses-là devraient effectivement assurer le futur de la Chine.
Dominique Joly, quand vous nous parlez du plan 2025, est-ce que ça coïncide avec le plan quinquennal qui a été débattu cette semaine à Pékin, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre ?
Alors c'est en phase, ok, mais c'est quelque chose d'autre. Hein, c'est en phase dans le sens où c'est la même. Tout ça, c'est des compartiments, différents de l'économie qui sont visés. Le projet Made in China 2025, c'est plus quelque chose pour cette industrie qu'on connaît bien, industrie manufacturière, dont je disais tout à l'heure qu'elle était un peu en retard, alors que l'autonomie technologique vise plutôt des secteurs high-tech ou medium-tech dont je parlais tout à l'heure, donc toute cette idée d'une création technologique, donc une transformation qualitative importante de l'économie chinoise, mais bon, c'est assurément pas mal engagé.
François Zhuang, lors de cette réunion du plénum du comité central du Parti communiste chinois qui s'est tenue cette semaine, et donc on commence à avoir quelques bribes sur ce qu'il sera, ce plan quinquennal, aucun chiffre n'a été donné pour les objectifs de croissance. C'est-à-dire que d'habitude, les dirigeants communistes annonçaient à l'avance quels étaient les objectifs de croissance. Là, il n'y a pas d'objectif chiffré annoncé. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, vous avez raison. Alors, d'une part, je pense que à la fin de cette session plénière, donc qui a lieu en fait tous les 5 ans quand ils discutent l'année précédente le début du plan quinquennal, on n'a pas encore suffisamment de détails qui vont sortir parce que c'est encore une phase de discussion et la finalisation et communication officielle avec le détail des objectifs chiffrés et qualitatifs viendra plutôt en mars de l'année prochaine. Donc d'une part, il faut avoir ce point-là en tête, mais d'autre part, je pense que vous avez très raison de le mentionner. Ce n'est pas complètement anodin. Il faut savoir aussi que cette année, donc pour l'année 2020, pour la première fois, les autorités chinoises ont décidé de ne pas mettre en place un objectif de croissance, étant donné les circonstances exceptionnelles de la pandémie mondiale. Et vous avez raison, dans les précédents plans quinquennaux, par exemple le 13e plan quinquennal qui courait pour la période de 2016 à 2020, on avait un objectif de croissance d'en moyenne 6,5% chaque année. Sur cette période. Donc je pense que vous avez raison, c'est pas complètement anodin qu'on n'ait pas eu d'objectif de croissance cette année. Et je pense qu'il pourrait être intéressant pour les décideurs politiques de continuer à en fait rompre avec cette tradition des années et décennies passées en ne mettant pas en place un objectif de croissance de PIB. Parce que ce dont on parlait tout à l'heure aussi, c'est que donc dans le passé on avait cet objectif qui en fait se faisait à tout prix au dépend parfois d'autres thématiques, notamment l'endettement, notamment la discipline budgétaire, qui aujourd'hui sont en train de devenir des sujets, ça fait quelques années, mais qui sont en train de devenir des sujets structurels et des défis structurels potentiellement que la Chine devra relever pour éviter par exemple une crise ou un éclatement de bulle à moyen long terme.
Pourquoi l'endettement ? Pourquoi est-ce que ça devient une priorité ?
L'endettement, en fait, a cru de manière très rapide dans les années 2010. Donc, suite en fait à la crise financière mondiale des années 2008-2009, la Chine a mis en place un stimulus budgétaire et monétaire très important. D'ailleurs, on parlait un peu plus tôt dans l'émission de politiques qui ont été mises en place cette année face à la pandémie mondiale. On parle souvent de crise et de choc sans précédent quand on parle de cette pandémie mondiale, mais il faut savoir que nous, on estime que...
Alors nous, c'est l'RMS, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est moi-même et l'équipe. Nous estimons que le soutien monétaire cette année arrive seulement à un tiers du soutien qu'on a pu voir en Chine en 2009. Donc à l'époque, on a eu un stimulus budgétaire et monétaire encore plus important.
2009, après la précédente grande crise économique et financière mondiale.
Voilà, c'est ça. Donc plus précisément, en Chine, ça a été mis en place en 2010, en réaction à ce choc externe. Mais donc à l'époque, on a eu un soutien politique très fort qui a poussé à un endettement très important de l'économie. Et aujourd'hui, donc mes derniers chiffres montrent qu'au début de l'année 2020, l'endettement total de la Chine atteignait pratiquement 280% du PIB, ce qui est un niveau assez similaire en fait, in fine, à des niveaux qu'on voit dans des pays développés, comme les États-Unis, l'Europe ou le Japon.
280 ?
Mais il faut avoir 280% du PIB, ouais. Quand on prend l'endettement de tous les agents économiques.
D'accord, des entreprises, etc.
Voilà, des entreprises, des gouvernements, des ménages. Donc quand on prend tout ça, on arrive à un niveau d'endettement déjà similaire à des pays développés, mais la Chine n'est pas encore exactement une économie développée, et notamment, il faut, par exemple, un système de santé, un système de retraite, un système de sécurité sociale, in fine, plus développé, qui demandera encore plus de dépenses de la part du gouvernement. Et d'ailleurs, ça c'est important aussi, aussi pour cette perspective de développement de la consommation intérieure, puisqu'aujourd'hui, les ménages chinois épargnent à hauteur de 35% de leurs revenus, ce qui est énorme, justement parce qu'on a un système de sécurité et de protection sociale globalement qui n'est pas assez large et qui ne couvre en fait pas assez.
Retour sur le terrain, nous partons en Afrique où la présence chinoise est toujours aussi forte. Exemple avec ce qui se passe au Sénégal. Écoutez ce reportage Écodissier Eco d'ailleurs signé Théa Olivier à Dakar.
Bassines en plastique, couvertures et tasses, la plupart des articles vendus dans la boutique d'Amadou vient de Chine. Ce sont les produits qui ont le plus de succès, explique ce commerçant installé dans un marché de Dakar.
C'est des choses en plastique et des choses en aluminium. Les choses qui viennent de Chine sont moins chères et sont beaucoup consommables au Sénégal ici. Parce qu'on ne fait pas la différence entre la qualité. Nous, on se consomme peu de choses qui sont chères. Parce que ici, c'est un pays moins développé.
Au-delà du commerce, c'est surtout dans la construction d'infrastructures que les entreprises chinoises s'imposent. En plein cœur de Dakar, des rouleaux compresseurs étalent du goudron pour terminer le chantier du nouvel autopont qui facilitera la circulation dans la capitale. En charge du projet, l'entreprise française Matière, mais surtout Enanshin, cette société chinoise publique-privée, est l'une des premières à s'installer au Sénégal en 1980, explique Vanessa Ben, assistante du directeur adjoint.
Pour nous, le marché sénégalais, c'est le moteur du marché africain et notre entreprise mère est il porte grande attention sur cet continent. Depuis 2007 jusqu'à maintenant, on a déjà investi une montant de 80 millions de dollars en Sénégal.
Le premier gros projet de Enanshin a été le stade Léopold Sédar Senghor à Dakar. Depuis, la société a construit des ponts, des systèmes d'approvisionnement en eau, mais a aussi modernisé la ville sainte de Touba. Le directeur adjoint de la société, Peng Hu, mise alors sur le plan Sénégal émergent pour se développer.
Depuis 1980, on prend environ 10 000 personnes locales pour faire le travail. Les personnes locales, elles aident nous à comprendre le Sénégal. Et en même temps, les Sénégalais, ils apprennent la technique et administratif qui vient de Enanshin. On fait la bonne collaboration avec l'entreprise locale pour les aider à se développer.
Une cinquantaine d'entreprises chinoises sont installées au Sénégal, selon l'ambassade de Chine, mais elles seraient jusqu'à 200, surtout dans les secteurs de la construction, des télécommunications et de la pêche, estime Ibrahima Niang, directeur de l'Institut d'études africaines et asiatiques au Sahel.
Le Sénégal, c'est la porte d'entrée en Afrique de l'Ouest des entreprises chinoises. Elles prennent en compte la dimension sécuritaire, c'est-à-dire la stabilité politique. Donc, ce sont des éléments qui ont joué en fait en faveur du Sénégal au point qu'il y ait plus d'entreprises chinoises qu'ailleurs. Maintenant, il y a un groupe de pays qui peuvent véritablement exporter aux États-Unis d'Amérique, c'est la base en fait de l'accord AGOA. Ces pays-là, dont le Sénégal, permettent à ce que ces entreprises chinoises puissent continuer à exporter aux États-Unis d'Amérique. C'est une manière aussi de contourner les restrictions douanières qui sont liées un peu à cette guerre économique qui oppose les deux pays.
Les entreprises chinoises ont créé plus de 3000 emplois, mais elles sont aussi critiquées pour avoir accéléré la déforestation et vidé les ressources halieutiques du pays. Et les retombées industrielles ne sont pas suffisantes, ajoute le chercheur Ibrahima Niang. Autant d'enjeux qui pourraient être discutés lors du forum sur la coopération sino-africaine qui aura lieu au Sénégal en 2021.
Un reportage signé Théa Olivier à Dakar. On entendait Ibrahima Niang à la fin de ce reportage, le chercheur sénégalais, expliquer que la Chine se servait en quelque sorte du Sénégal pour contourner les sanctions commerciales et les barrières douanières américaines. C'est un projet qu'on peut dire être intégré dans les routes de la soie, Dominique Joly, ça?
C'est une définition un peu élargie, mais bon, le concept, de toute façon, de route de la soie, enfin de BRI, la Belt and Road Initiative, pour la nouvelle reformulation, c'est un projet lui-même assez vaste, ok. Donc, peut-être pas nécessairement de ce côté de l'Afrique, mais en tout cas du côté Nairobi, ça fait partie du sujet, oui.
Françoise Jung, alors, j'annonçais cette question en présentant l'émission, en introduisant l'émission, je vous la pose quand même parce qu'on arrive à la fin, mais on a peut-être compris à travers tout ce qui s'est dit. Est-ce que l'économie chinoise va continuer à être la locomotive de l'économie mondiale dans les années à venir? Quelle est votre projection et votre vision des choses?
Alors, la Chine va continuer à croître relativement rapidement, si on compare aux autres économies du monde. En l'occurrence, pour les 10 années à venir, j'attends entre 4 et 5% en moyenne de croissance. Donc oui, elle va continuer à croître plus rapidement, mais ce qui est quand même important, elle va ralentir par rapport aux années passées. Dans les années 2010, on avait en moyenne quand même une croissance de à peu près 7,5%. Donc on a quand même une économie qui continue à croître, certes, mais qui ralentit. Et donc ça, ça se ressentira quand même auprès des partenaires commerciaux de la Chine, d'une part, et d'autre part, on a longuement discuté de ce rééquilibrage, cette circulation double, cette nouvelle stratégie, enfin, plus ou moins nouvelle, comme Monsieur Joly l'a dit, en partie en fait une reformulation de la stratégie. Mais en fait, cette stratégie de long terme va aussi peut aussi avoir des impacts sur le reste de l'économie mondiale, puisque on l'évoquait, la Chine maintenant souhaitera encore plus en fait accélérer le développement de son économie domestique. Elle souhaiterait à terme dépendre moins des importations, dépendre moins des produits étrangers, de la technologie étrangère, etc. Donc ça aussi, ce changement à moyen long terme, ça aussi, ça aura un impact sur les chaînes de valeur mondiales et sur l'économie mondiale.
C'est-à-dire qu'il y aura moins de conteneurs qui partiront des quatre coins du monde pour se diriger vers la Chine, c'est ça ?
Ça peut être une manifestation, oui, mais il faut aussi avoir en tête que ce n'est pas non plus une tendance qui est uniquement poussée par la Chine. La Chine va dans cette direction aussi parce que on a un protectionnisme qui s'est quand même plus manifesté dans le reste du monde ces dernières années, à commencer évidemment par la guerre commerciale qui a lieu entre les États-Unis et la Chine. Et donc c'est des déclenchements, des catalyseurs aussi de ce style qui poussent la Chine à un peu plus se tourner vers elle-même.
Dominique Joly, même question. La Chine, locomotive de l'économie mondiale, c'est fini ?
Oui, alors la pente est plus aussi forte, hein, ça c'est, on est d'accord. Hein. On n'est plus sur une tendance, comme disait Madame Huang, à 7,5. Alors je ne sais pas si on va être à 4 ou 5 ou moins dans les années à venir, mais bon, c'est à peu près clair qu'on est dans une phase d'atterrissage, et on est dans un atterrissage tranquille, hein, c'est pas un atterrissage brusque, hein, parce qu'il y a de ça encore 5-10 ans, on se posait la question du risque d'un atterrissage brutal. Alors, pour reprendre l'image que vous suggériez, moi je pense qu'ils vont continuer à utiliser des containers, mais ils vont pas les remplir avec la même chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et je pense que il y aura de plus en plus de place pour une élévation du contenu technologique. Ça, c'est quand même un élément qui d'ailleurs explique, hein, les inquiétudes américaines, un petit peu les nôtres aussi, parce que nous, encore une fois, moi ça fait 22 ans que je vais en Chine, et il y a 20 ans, quand je revenais, si je devais m'exprimer auprès de cadres, je leur disais, pas d'inquiétude, vous savez, ce qu'ils font, c'est du textile, donc nous, on n'est pas attaqué dans le cœur de notre contribution, de notre valeur ajoutée, à savoir la création technologique. Bon, ça, c'est plus vrai. C'est plus vrai du tout, parce que la Chine, maintenant, dépense plus que les États-Unis en recherche et développement, a des parcs scientifiques et techniques extrêmement vivaces, il y a une création de start-up étourdissante, il y a les fameuses licornes qui sont en nombre bien plus important qu'aux États-Unis. Donc toute cette dynamique, et puis j'oubliais, y a beaucoup plus de brevets qui sont déposés maintenant en Chine qu'aux États-Unis. Donc vous voyez, ça c'est une transformation radicale par rapport à la situation d'il y a 20 ans. Donc ça va changer la nature des choses qu'on va mettre dans les containers, c'est assez clair. Maintenant, les risques, ils sont extrêmement nombreux. On a vu une reprise en main assez nette avec le pouvoir qui est aujourd'hui aux commandes. On a un questionnement sur la place qu'on va réserver dans le futur au marché. On a vu des entreprises privées prendre un développement étourdissant. Enfin bon, maintenant tout le monde connaît Alibaba, Tencent, Huawei, Geely. Bon, toutes ces entreprises-là, maintenant privées, sont devenues extrêmement puissantes. Est-ce que le pouvoir, hein, finalement le décideur, c'est le Parti communiste, c'est lui qui dirige l'économie. Est-ce que le pouvoir va renouveler son mandat, si j'ose dire, à ces entreprises-là ? Est-ce qu'elles sont pas maintenant devenues trop puissantes ? Donc c'est un des questionnements, mais il y a beaucoup de questions quand même qui sont posées, au-delà aussi de ce qu'on a évoqué, bien sûr, cette relation très compliquée avec les USA.
Dominique Joly, eh bien, beaucoup de questions évidemment, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti, comme on dit, est terminé. Cette émission touche à son terme. Je vous remercie, Françoise Huang, Dominique Joly, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous réécouter sur le site www.rfi.fr à l'onglet podcast ou via l'application Pure Radio de vos smartphones à l'onglet émission. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques dans ces temps difficiles.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.